François nous propose une méthode pour reprendre le contrôle de sa vie et ou mettre en œuvre les actions pertinentes afin de passer à un niveau supérieur. Il existe deux axes de travaux indispensables, tant dans sa vie privée que sa vie professionnelle, car pour François, les performances dans chacune des vies sont liées. Il faut choisir de vivre pleinement l'instant présent et être heureux. Merci François. Luc, lui, est utilisé pour activer le rêve de Dieu en vous et vous donner les outils pour réaliser la destinée pour laquelle vous avez été créé et ce, par l'intermédiaire de prédications et autres, ainsi que des chants de louanges. Luc est un activateur de destinée par excellence. Il deviendra votre mentor et coach pour vous transporter à un niveau supérieur de réalisation et de dépassement de vous-même. Préparez-vous à être inspiré et motivé comme jamais. Merci Luc. J'ai été chercher ça sur Internet, deux passages, deux slogans pour participer à le projet d'un coach. L'un se dit chrétien, l'autre pas. Et personnellement, c'est quoi la différence entre les deux ? À part l'idée de réalisation de soi, de réaliser ce qu'on entend aujourd'hui, le plein potentiel et ainsi de suite. Ça fait 30 ans que je suis converti à Jésus. Je suis sorti de la drogue, comme on a dit, par le miracle, hein, c'était vraiment un miracle de Dieu. J'ai grandi avec le Seigneur, j'ai été appelé au ministère vers 30 ans, ça fait 20 ans maintenant que je le sers. J'ai vécu, comme vous l'avez entendu, en Belgique, puis j'ai été au Québec, maintenant en France. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs pays, riches comme pauvres, j'ai pu y rencontrer des chrétiens, fréquenter plusieurs milieux, aussi bien charismatiques que non charismatiques. J'y ai rencontré des frères et des sœurs qui aiment sincèrement le Seigneur. J'ai récemment connu la case cancer dans ma vie. Avant cela, j'avais connu les déceptions, les échecs, j'ai connu les inquiétudes financières. Et maintenant, je lutte avec une petite dépression spirituelle. Et je crois que je ne suis pas le seul à avoir vécu ce genre de situation. Je crois même que l'on vit tous ce genre de situation, à des degrés, c'est vrai, différents. Et bien souvent, à part d'être le même riche que dans Asaph, au psaume 63, où Asaph, qui était un poète, écrivain de chanteur, va dire au psaume 73, il va dire « j'étais jaloux », je pense qu'on peut l'afficher. Ah, c'est moi le chef, c'est vrai ? Je suis pas chef de grand-chose, apparemment. Elle est, regarde, super laser, j'ai la même. Hein. C'est toi qui me l'as fait acheter, en plus. C'est bien, ce petit écran. Il faut qu'on se parle, Serge. Je veux ça à l'église chez moi. Je pilote toujours rien. Bon, ben, non, je pousse. Bon, faites-moi confiance, je vais vous le lire. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines comme le font le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les êtres humains. Je relis, puisque vous ne l'avez pas pu le voir encore. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont santé et en bon point. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les êtres humains. Malheureusement, beaucoup de personnes ont cette même jalousie quelque part. Et Asaph, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même un homme qui a été utilisé, qui fait partie du peuple de Dieu, qui est utilisé pour écrire les psaumes. Les psaumes, c'est pas rien. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, on les chante, on les médite, ils nous encouragent, et ils sont surtout estampillés par la valeur de la parole de Dieu. Dieu considère que c'est la parole qui doit être communiquée à son peuple, si bien que le peuple va même les chanter. Et donc, il se révèle, cet homme-là, cet Asaph, et il se révèle en disant, mais j'étais jaloux finalement, mais quel est l'avantage de t'appartenir? Merci. Quel est l'avantage de t'appartenir puisque moi je souffre, moi j'ai de la difficulté et puis finalement, ceux qui n'ont pas Dieu réussissent mieux et je suis jaloux de ces gens-là. Je désire vivre leur vie. Et aujourd'hui, malheureusement, nous voyons pas mal d'émissions de télé qui nous sont affichées sans arrêt, où finalement on nous met en avant la vie de ces gens qui on dirait, le mal leur passe au-dessus. On regarde leur maison, et apparemment ils sont des gens très propres parce qu'ils ont 8 salles de bain. Ils ont 15 chambres, ils doivent, à mon avis, ils peuvent passer 2 semaines sans jamais faire un lit. Bref, on regarde ça et on se dit, mais on a l'impression que ces gens flottent au-dessus du lot. C'est ce que Asaph voit, il se dit, mais pourquoi ils ont tout ça, moi qui te sers, ô Dieu ? On voit des jeunes, hein, vous le voyez, hein, rien de nouveau sous le soleil, hein, qui font des clips vidéo où finalement ils sont devant une magnifique belle voiture et des femmes qui se battent pour la liberté féminine. Elles, apparemment, ça leur passe à côté du moment qu'elles peuvent être en maillot et danser en faisant bouger leurs fesses. Elles sont toutes heureuses du moment qu'on jette des billets en l'air et voilà. Donc triste finalité pour. Mais parce qu'il y a de l'argent. Et ça attire, ça attire, ça attire, ça attire parce que c'est l'idée du succès. Et je suis certain que Asaph doit être dans cette pensée-là en se disant, mais on a l'impression que eux, tout va bien, mais moi, Seigneur, où je suis dans ce plan-là? Ça m'attriste parce que malheureusement, beaucoup de frères et de sœurs sont tristes dans leur propre vie chrétienne. Ils ont l'impression où ils se disent, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je n'ai pas la même chose que eux, moi qui te suis si fidèle, ô Dieu, moi qui fais tant d'efforts pour être droit devant toi? Et ils se tournent alors vers des messages où on leur propose les clés de la réussite d'une vie épanouie avec Dieu, finalement comme les non-croyants. Et le discours aussi bien de François qui est activateur de potentiel ou de Luc qui est activateur de potentiel grâce à Dieu, c'est le même point. Ils veulent une vie riche et bénie aujourd'hui. C'est pour eux le but, le plan de Dieu. Et si je ne l'ai pas, je suis malheureux. Je suis triste de voir cela de plus en plus monter dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, dans des émissions. On regarde, je ne sais pas, enfin, vous aussi, vous voyez comme moi ce qui se passe et on se dit, mais on n'est plus dans l'évangile. Les non-croyants ont leur philosophe qu'ils interrogent pour connaître le secret du bonheur, où ils ont bien leur coach, leur conseiller, leur psychologue, parce que le mal-être est tenace, il est là. Et des frères et sœurs, même désespérés, cherchent à apaiser ce mal-être en eux, finalement, de se dire, mais pourquoi je ne suis pas heureux? Pourquoi j'ai l'impression d'être tout le temps en train de courir derrière le but de ma vie sans jamais l'atteindre? Parce que nous sommes dans un moment très désagréable entre le déjà et le pas encore. Nous avons confiance en Dieu, nous avons foi en Dieu, mais la lassitude, elle est là, elle est pesante. Alors que faire? Pour moi, honnêtement, il n'y a pas 4 chemins. Et je vais y aller directement. Il faut vivre avec. Je vais vous expliquer pourquoi. L'apôtre Pierre, je reprends contrôle? Ouais, je suis le chef. L'apôtre Pierre va dire ceci. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Lorsque Pierre écrit cela, il l'écrit à une église persécutée. Et il dit la même chose qu'à vous, à moi. Jésus, tu ne l'as jamais vu et pourtant tu l'aimes. Est-ce que tu aimes Jésus sans l'avoir vu ? Ouais. À Dijon, quand je pose une question, ils ont l'habitude de ne rien répondre. À chaque fois, je leur dis, mais si je vous proposais de l'argent en échange, vous répondriez? Alors ils répondent encore moins, parce que forcément. Donc, Jésus, quelqu'un l'a déjà vu? Non. Pourtant, vous l'aimez. Mais oui. Et cet amour qu'on a pour Jésus, eh ben, Pierre va nous dire que cet amour qu'on a, cette passion qu'on a, ben on place notre confiance en Jésus, indépendant des circonstances, et parce qu'on place notre amour dans ce Jésus qu'on n'a jamais vu, ni les prophètes, puisqu'il va dire à un certain moment, les prophètes ont écrit sans le voir, il est simplement en train de nous dire que les anges sont en train de voir ce qui se passe, et que les anges se réjouissent de ce plan merveilleux que Dieu a établi, je veux pas vous perdre, mais il est en train de dire, vous êtes au même niveau que Moïse, ou Ésaïe, ou Ézéchiel, ou Élie, qui ont écrit au sujet du Messie. Vous l'aimez, mais vous l'avez pas vu. Sauf que nous, on a une grâce incroyable, c'est qu'on peut mettre un nom sur ce Messie. On peut l'appeler Jésus-Christ. Mieux que ça, on peut voir à quoi il ressemblait dans les textes, dans sa manière de vivre, sa manière d'agir, sa manière d'enseigner, sa manière de parler. Et donc, il est en train de dire, Pierre, vous imaginez même pas, vous êtes plus heureux que Moïse. Parce que vous pouvez placer maintenant votre confiance dans ce Dieu, vous pouvez regarder à lui, et il y a une joie en vous. Et il est en train de dire que comment s'exprime cette joie? Ben, il dit qu'on ne sait pas l'exprimer. Est-ce que vous êtes déjà passé par des moments vraiment troublants dans votre vie, vraiment où tout s'écroule, et puis vous pensez à Jésus, vous pensez à Dieu, et là, il y a quelque chose en vous. C'est pas que vos événements ont changé, mais il y a une paix, une assurance, une certitude, une proximité avec ce Dieu qu'on n'a jamais vu et qu'on aime de tout son cœur, et on crie à lui fort, et on se sent finalement, malgré les événements, encore plus proche de lui. Et il va dire finalement que toutes les difficultés qu'on va traverser, puisque c'est dans le cadre de la persécution, vont faire quelque chose, c'est qu'il va nous dire, bon, je prêche sur un pierre à l'église chez nous, donc forcément j'ai du un pierre partout dans la tête, mais il va nous dire que les différentes épreuves sont là dans un but de purifier notre foi telle que l'or, mais notre foi plus précieuse que l'or doit être purifiée. Le meilleur moyen de purifier notre foi, c'est l'épreuve. Et c'est pourquoi il va dire, il faut que vous souffriez. Il faut que... Alors que beaucoup nous disent, oh, tu as raté ta vie, tu souffres. Pierre nous dit, il faut que tu souffres. Puis la question n'est pas compliquée. C'est comment est-ce qu'on voit Jésus? Qui est Jésus? Comment a vécu notre Seigneur? Peut-être une chose que vous ne savez pas, mais Charles Spurgeon, vous avez déjà entendu parler de Charles Spurgeon? Oui, j'espère. Enfin, peut-être pas, mais on va au moins expliquer. C'était un grand prédicateur en Angleterre. Je me trompe toujours avec les siècles. Je crois que c'est le 19e siècle. Et c'était un homme qui avait vraiment une capacité de par ses paroles de pouvoir vraiment toucher des cœurs. On l'appelait le prince des prédicateurs. Et très tôt dans son ministère, vers 20 ans, ils ont fait des grandes campagnes, les gens venaient pour l'écouter, puis il y a un petit malin qui a crié dans la salle « Au feu, au feu !» Puis évidemment, mouvement de panique, mouvement de foule, 6 personnes sont décédées, 25 ont été gravement blessées. Et là, Charles a été mais vraiment dévasté très jeune par ce poids de la souffrance, et toute sa vie durant, il a lutté avec la dépression. Toute sa vie durant. Il a été interné plusieurs fois à l'hôpital parce que sa dépression était tellement forte, mais là on n'en parle pas souvent, on parle plutôt du Charles Spurgeon qui attire les foules, mais le véritable Charles Spurgeon a découvert la force dans la faiblesse. Et nous, on a tendance à ne voir que la force. On se dit, mais si j'étais à côté d'un Charles, je me sentirais tout petit. Et un Charles était tout petit justement, mais très fort parce que Dieu l'utilisait. Et c'est mon sujet ce matin, la force dans la faiblesse. Et Charles a trouvé son espoir, comme nous trouvons notre espoir, dans une véritable compréhension de qui est Jésus. Soit Jésus est le super-héros Marvel. Connaissez Marvel? Les séries, on en a plein en ce moment. Soit on pense que Jésus est un espèce de super-héros, hyper plus puissant que tout ce que les États-Unis pourraient nous fournir comme super-héros, soit on regarde le Messie tel qu'il est présenté dans Ésaïe 53. Et dans Ésaïe 53, on nous présente un Messie où il est ceci, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux, il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Homme de douleur habitué à la souffrance. Homme de douleur habitué à la souffrance. Mon Messie, mon Seigneur, celui que je n'ai pas vu et que j'aime, dans lequel je place ma confiance qui augmente ma foi qui me porte vers le salut, mon Messie en qui je crois était un homme habitué à la douleur. Est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il avait mérité cette douleur? Est-ce qu'il n'avait pas atteint son plein potentiel? Quel réconfort de savoir que notre Messie est un Messie habitué à la douleur. Et vous savez, pour ce Charles Spurgeon, c'était son plus grand réconfort. Parce que on n'aime pas souffrir, on n'aime pas être mal, on n'aime pas être moins que. Et Charles voyait bien que il trouvait son réconfort en disant, si mon Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme, a souffert, ce n'est pas anormal la souffrance. Je n'ai pas raté le but de ma vie. Et plus que ça, vous savez, quand Jésus est venu sur terre, il a marché au milieu de nous, mais il était 100% homme, 100% Dieu, mais 100% homme. Et il a fallu qu'il obéisse à Dieu. Il a fallu qu'il atteigne la perfection, qu'il arrive au bout de sa vie sans péché. C'est pas qu'il passait à côté du péché comme si de rien n'était, ça ne le touchait pas, il luttait. Qui d'entre nous a déjà prié si intensément que des gouttes de sang coulent de notre front? Personne. Mais lui était mais véritablement un homme qui était poussé, donc son côté humain, à la douleur pour tenir bien, tenir bon, tenir ferme. Nous, on a combien de fois lutté contre le péché en tombant dedans? Lui, jamais. Il pouvait pas pécher. C'était pas possible. Il n'aurait pas pu offrir sa vie en sacrifice pour moi s'il avait commis une faute. Il aurait pu, à la limite, payer pour sa propre faute. Mais il y est arrivé. Mais il n'y est pas arrivé parce qu'il avait décidé de se croiser les jambes et mettre un petit peu d'encens dans sa chambre et se sentir transporté dans une effluve afin d'être décalé du monde. Non, il a souffert. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux va nous dire. Alors là, c'est plus petit. Là, si vous voyez pas là, c'est le temps d'aller prendre rendez-vous à l'opticien. Il en est de même pour le Christ. Ce n'est pas lui qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre, car c'est Dieu qui le lui a déclaré. Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Et dans un autre passage, il dit tu es prêtre pour toujours dans la ligne Melchisédek. Alors si vous n'avez pas compris là, c'est pas très grave. Par contre, ce que l'on doit retenir, c'est que Dieu avait déjà déclaré qu'il était son enfant. Il lui appartenait. Il a déjà reçu. Dans la ville de Calvin, on peut le dire, prédestiné. Ça fait pas rire les calvinistes, ça? Oh bon, c'est pas grave. J'essayerai une autre. Et voilà ce qui est important de regarder. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et parce qu'il a été ainsi amené à la perfection, qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu en effet l'a déclaré grand prêtre dans la ligne de Melchisédek. Si vous n'avez pas compris Melchisédek, c'est pas grave. C'est tout un autre sujet. Mais il a atteint le but que Dieu lui a fixé. Et comment il a atteint ce but? Dans les larmes, dans les prières, dans la souffrance. Il ne s'est pas mis en retrait en disant « ça ne me touche pas », c'était ni un hédoniste qui se réjouissait de toute petite « oh, une belle fleur, oh, c'est pas une fleur », ou bien un stoïque qui disait « de toute façon, moi, la souffrance, ça ne me touche pas ». Mais vous savez, nous, on est inspirés par ces choses-là. Ou on est stoïque, ou on est hédoniste. Et donc, d'un côté, soit on pense que Dieu voudrait que je sois placide, enfin que je n'ai aucune émotion dure, ferme, que ça coule sur la carapace de mon indifférence, ou bien on devrait se réjouir tout le temps. Non, Jésus a souffert, il a prié, il a traversé dans les larmes, et c'était la vie normale. Alors, c'est pas très réjouissant pour le moment tout ça. Hein. Je comprends que pour le moment, on se tourne vers le message de François ou de Luc qui va te permettre de réaliser ton plein potentiel. Tu vas être heureux sur terre, tu vas voir. Dieu va accomplir tes rêves. Rien de nouveau sous le soleil. On appelait ça l'idolâtrie à l'époque. Vous avez déjà réfléchi pourquoi les gens quittaient Dieu pour aller vers des idoles? Dans quel but? Pourquoi se détourner du Dieu trois fois saint pour aller, qui lui a la capacité pour se détourner vers une idole? Ben parce que je suis pas béni, faut que ça marche, faut que mes méchants donnent de la semence, enfin faut que ça pousse. Donc je vais aller vite faire une offrande à un autre Dieu. Pourquoi? Ben parce que je veux la bénédiction maintenant, moi. Alors je me détourne du Dieu trois fois saint pour aller chercher un Dieu qui serait à mon service. Un Dieu qui est à mon service, c'est une idole. Et pourquoi est-ce qu'on se tournait vers justement ces gens-là, ces idoles-là? Parce qu'on voulait recevoir aujourd'hui les bienfaits pour aujourd'hui. Bon, j'ai perdu une feuille. Bon, soyez sauvés, je l'ai retrouvée. Moïse, Élie, Jérémie, David, Paul ont connu des angoisses. Tiens, je remets ce passage-là parce qu'il faut que je l'aie sur les yeux. Donc Moïse, Élie, Jérémie, Job, Paul ont connu des moments d'angoisse, des moments de détresse, des moments de difficulté. Leur relation pourtant était réelle avec Dieu. Ils avaient une intimité avec Dieu. Moïse avait une intimité incroyable puisqu'il allait devant le tabernacle et le texte nous dit que Dieu lui parlait comme à un ami. Et c'est juste incroyable. Élie, il s'est retrouvé dans des situations incroyables aussi, mais là aussi, Dieu est venu lui parler. Et pourtant, il a vécu des mouvements de dépression profonde. Moïse, écoutez ce qu'il va dire, hein, je parle d'hommes de Dieu qui véritablement sont proches du Seigneur, hein. Il va dire, hein, ça va aller. Moïse va dire, je ne suis pas capable de porter à moi seul la responsabilité de tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si tu veux bien m'accorder une faveur, prends ma vie plutôt que de me traiter ainsi et que je n'ai plus à contempler mon malheur. Moïse, qui dit à Dieu, fais-moi mourir. C'est juste incroyable. Ou bien Élie qui va dire dans un certain moment, donc il va accomplir Dieu, enfin Dieu va accomplir un énorme miracle. Vous connaissez, il faisait un autel et il rigolait des faux prophètes en disant allez dansez autour de votre autel, dansez plus haut, chantez plus haut, plus fort. Peut-être que votre Dieu va vous exaucer. Bref, Dieu exauce. Je vais pas vous perdre. Il est juste en dépression. Voici ce qu'il va dire. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt, isolé, et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il, maintenant Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il est épuisé, il est à bout, il dire à Dieu « Fais-moi mourir !» Ou Jérémie qui va dire « Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente et ma plaie douloureuse, rebelle aux soins, vraiment, pour moi tu es une source trompeuse au débit capricieux. » Il va dire ça à Dieu. Et puis l'apôtre Paul qui lui-même va dire à un certain moment, « Aussi frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, nous avons été réconfortés par la réalité de votre foi. » Donc l'apôtre Paul va dire que oui, il avait des angoisses et oui, il vivait des moments de détresse. Alors, qu'est-ce qu'ont fait ces hommes pour aller mieux? Eh bien, ils ont certainement contacté Luc pour qu'il lui donne les 7 clés de la réussite spirituelle. C'est du sarcasme, hein, vous pouvez rire. Non, ils n'ont pas cherché l'onction qui devrait être distribuée par je ne sais quel vendeur d'onction afin de sortir de leur tristesse. Ah, il faut que tu ailles voir un tel, il faut que tu ailles écouter un tel, tu vas voir, tu vas recevoir une onction, tu vas, tes problèmes vont exister encore, mais toi, tu vas les regarder de haut. Stoïcisme. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont plongés dans la parole de Dieu et ils se sont rendus compte que la souffrance avait un objectif. La souffrance a un but. Nous ne souffrons jamais pour rien avec Dieu. Et Dieu sait très bien ce qui se passe. Relisez le livre de Job. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de lire le livre de Job. Et donc, normalement, comme je suis venu à Lézin, j'ai prêché sur Job. Donc, tous ceux qui se souviennent au moins jusque Lézin de ce qu'on avait prêché, Job, il va souffrir comme jamais. Et jamais, il va tout le temps demander, finalement, la rengaine de Job, c'est « Mais pourquoi ?» Et Dieu va intervenir en lui disant « Bon, tu as déjà vu la création, le monde, l'univers ?» Tout ce qui est ordonné, c'est moi qui ai placé ça. Jamais Dieu va justifier à Job sa souffrance, il va jamais dire « Job, tu souffres parce que ». Mais Dieu va tellement manifester sa puissance, sa gloire à Job en lui expliquant, simplement en retraçant le parcours de l'univers, que Job va dire « Ok, je vois que tu es en contrôle, j'ai parlé stupidement de toi ». Mais autrefois, j'avais déjà entendu parler de toi, je t'aimais, mais maintenant mon œil t'a vu. Et sous-entendu, Job se rend compte que finalement Dieu ne l'a pas oublié dans son projet. Je contrôle tout, Job. Même un aigle en haut qui va mettre son nid en haut d'une montagne, je sais qu'il le fait parce que c'est moi qui l'ai voulu. La mer qui s'arrête à cet endroit-là, c'est moi. Et toi, tu crois que parce que tu souffres, je le sais pas, je suis pas au courant, tu crois que j'ai perdu le contrôle? C'est ça la réponse de Dieu à Job. Il est pas en train de lui expliquer pourquoi il souffre. Il est en train de dire « Je suis Dieu ». Ce qui se passe parce que je le permets. Alors comment vit un chrétien dans ces moments-là? Eh bien, il va retourner à son essentiel. C'est quoi la promesse de Dieu pour toi? C'est quoi la promesse de Dieu pour un chrétien? C'est quoi?
L'espérance.
Amen, c'est l'espérance. Mais l'espérance de quoi? T'espères quoi? Il y en a beaucoup qui espèrent une belle maison en ce moment. Mais t'as pas faux, mais c'est quoi l'espérance du chrétien? La vie éternelle, mais ça veut dire quoi? Vous êtes pas loin, hein, vous tournez autour, hein, mais comme je regarde tous les midis les questions sur un champion, là, alors ouais, je vois bien qu'il faut faire monter le jeu. Et puis au moment de donner la réponse, on dit page de pub. Le jugement, s'il n'y a pas de jugement, Mais si la colère de Dieu tombe sur le monde, qui va dire à Dieu, ben, moi, j'étais parfait. Je méritais d'être sauvé. Non. Si on oublie le jugement, si on oublie qu'on est sauvé, si on oublie qu'on a une espérance, si on oublie qu'on a une marche avec Dieu, et qu'on, finalement, on oublie le point essentiel, le jugement, alors la souffrance, elle est méchante. Mais si on n'oublie pas qu'il y a un jugement et que Dieu veut de tout prix que tu passes à travers ce jugement et que les souffrances vont faire augmenter ta foi et ta foi, c'est l'assurance du salut et le salut, c'est l'assurance de passer à travers le jugement. Même si tu es élu, t'as besoin que Dieu s'occupe de la chose la plus importante dans ta vie, c'est ta foi. Et ta foi, elle doit être purifiée par les difficultés. Et si tu ne veux pas croire que la difficulté est un moyen que Dieu utilise pour toi, pour te bénir, alors tu passes à côté de l'espérance chrétienne, parce que en fait, ton espérance, tu la veux maintenant. C'est tout. L'évangile, si on oublie l'idée de la souffrance et du jugement, tout devient insipide. Et alors on désire, comme Luc, on désire, comme François, finalement, où est Dieu? Mais Dieu t'a préparé une place avec lui dans la maison de son Père, un endroit où il y aura plus de pleurs, plus de larmes. Mais c'est ça l'évangile, ça n'a jamais été autre chose, sauf que depuis bien longtemps, et depuis qu'on vit dans une société de plus en plus consommatrice et de plus en plus individuelle, ce qu'on veut, c'est le plein potentiel de ma foi aujourd'hui. Mais ta foi, c'est quoi? La foi, c'est l'assurance que Dieu est avec toi, et l'espérance, c'est ce que Dieu te promet après. Ta foi, c'est le moyen de vivre chaque jour cette vie chrétienne dans le but de recevoir ce que Dieu a promis. Et l'espérance avec Dieu, c'est pas peut-être. L'espérance, c'est une assurance, c'est une certitude. C'est Dieu qui garde un héritage, c'est Dieu qui le garde. Personne ne peut l'enlever. Cette assurance, Pierre va dire que c'est un héritage qui peut ni se corrompre, ni se flétrir. Mon espérance, c'est le salut. Ma foi, c'est le moyen d'y arriver. Mon espérance, c'est pas hypothétique. Et ma foi est précieuse. Je crois à l'assurance du salut. Je crois que je suis sauvé parce que Dieu l'a choisi avant la fondation du monde. Mais je crois aussi que s'il n'y a pas de persévérance et s'il n'y a pas de sainteté, sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Je peux pas regarder une part en disant « bon, mais super, j'ai mon ticket, je vais au ciel ». Non. Et je dis à Dieu « merci pour les souffrances, merci pour les difficultés, merci ». Parce qu'au final, ce que je me rends compte, c'est que tout pâlit. Quand vous êtes acculé, la chose la plus importante qui vient dans votre vie, c'est être accroché à Jésus, coûte que coûte. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et toutes ces souffrances, finalement, te font regarder au plus important. Tu vas vivre quoi, 80 ans? Qui pense qu'il va fermer les yeux 80 ans en pleine santé et puis se réveiller, pouf, au ciel? Non, tu vas vieillir, tu vas avoir mal partout. Tu vas avoir des difficultés, tu vas peut-être passer par des situations où tu sais pas trop si demain tu vas te lever. Mais est-ce que Dieu a disparu? Vous savez, si un chrétien ne se réjouit pas de mourir, il a pas trop compris ce que c'est que le salut. Bien sûr, on pense à ceux qu'on laisse derrière. Mais si Paul vous dit « la mort met un gain », c'est que c'est un gain. C'est qu'il y a quelque chose de plus. Moi, je comprends pas les gens qui veulent absolument préserver leur vie ici. Je dis pas qu'il faut se jeter d'un bâtiment, mais si on regarde ce que Dieu nous promet, Paul va dire, mais c'est en rien comparable. Les souffrances qu'on vit, ça n'a rien comparable à ce qui nous est promis. Et je suis triste de voir que finalement, beaucoup d'églises cherchent des messages où finalement, le but, c'est d'être heureux maintenant. Mais si on est heureux maintenant et que ça diminue la force de ma foi, ben je vais perdre mon assurance. Je vais, Seigneur, ben est-ce que j'aurai vraiment encore la foi lorsque tu reviendras? C'est pas les paroles de Jésus. Y aura-t-il encore la foi lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre? Il l'a pas dit en vain. Hein, c'est quand même Dieu qui parle. Mais de quelle foi il parle? De quelle foi il parle? Et Paul va dire, donc je vais aller plus vite, hein. Je sais pas, je suis à combien de temps là? J'ai aucune idée, moi. Non, mais dis pas ça, les autres, ils pensent quoi? Ouais, non. Non, mais c'est à quelle heure, en général, Serge, soit juste? À midi, vous partez? À midi, le gars s'arrête de prêcher. D'accord. Bon, mais il reste encore une heure alors. Paul va dire... Non, l'Épître aux Hébreux va nous dire ceci. Bon, je vais lire parce que c'était pour moi des passages très importants. Épître aux Hébreux, chapitre 12. Ils vont nous parler de héros de la foi, des gens qui ont accompli des choses extraordinaires. Chapitre 12, verset 35, et il va continuer, il va parler d'autres. Il va dire, d'autres en revanche ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur. La résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet ainsi que les chaînes et les prisons. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Je sais pas où j'en suis. Ils ont erré dans le désert, sur les montagnes, vivant dans les cavernes et dans les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. La perfection, c'est la résurrection. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'a porté à la perfection parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Quand on dit la joie qui lui était réservée, c'est à mon avis c'était pas la croix. Hein. Il a enduré la mort sur la croix. En méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite de Dieu. Pensez à lui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Pensez à lui quand il a souffert afin que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement, parce que souffrir n'est pas anormal dans le plan de Dieu. Paul va dire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, il va dire « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet de cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais c'est à cause de celui qui l'y a soumise. C'est Dieu. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans sa gloire. C'est toujours le futur. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif, quand notre corps sera délivré. Vous voyez, il n'y a pas un seul passage pour le moment que je vous ai cité où l'objectif, c'est pas la résurrection. La résurrection. Tu souffres, mais ça va s'arrêter. Quand ? À la résurrection. Ou à notre mort. Ou au retour de Jésus, mais la résurrection. C'est toujours l'objectif. C'est la seule véritable espérance des chrétiens. C'est la plus absolue. C'est la raison pour laquelle on est capable d'endurer des millions de choses. C'est la raison pour laquelle des chrétiens ont pu être brûlés et qui disaient « c'est pas grave, je préfère brûler dans ces flammes terrestres que brûler dans les flammes célestes ». C'est, comment il s'appelait encore, Polycarpe. Polycarpe qui disait « mais jette-moi aux animaux, pas grave ». Je ne renierai pas mon Seigneur. Ça fait 90 ans, je crois, 90 ans que je le sers. Jamais il m'a fait du mal. Pourquoi je le renierais? Parce que l'empereur lui disait, mais arrête de louer ton Seigneur et adore l'empereur. Tu vas quand même pas mourir. Il dit, mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'abandonnerais mon Dieu? Toute l'histoire de l'Église, elle est teintée de souffrance. Et cette souffrance, soit on pense que Dieu a perdu le contrôle, soit on croit que Dieu est au contrôle. Si Dieu est au contrôle, est-ce qu'on a un Dieu qui est bon ou un Dieu méchant ou un Dieu qui est un peu sadique, ou est-ce que c'est un Dieu qui veille vraiment sur nous? Et est-ce que ce Dieu qui veille vraiment sur nous, il sait pas ce qu'on a vraiment besoin pour être sauvé de sa colère? Il le sait parfaitement. Et si Jésus, il a atteint ce statut pour pouvoir offrir sa vie en sacrifice, et s'il a souffert, est-ce que Dieu n'avait pas d'amour pour Jésus? Si, mais il fallait que Jésus allait jusqu'au bout et il a enduré la souffrance. Et Jésus et Dieu, il a pas de l'amour pour toi quand tu souffres? Est-ce que tu crois qu'il dit, bon, ben, allez, je vais te laisser un peu souffrir parce que là, Non, il va épurer, et je peux vous assurer, Épître aux Hébreux, Épître Pierre, il va dire que celui qui a connu la souffrance en a fini avec le péché. Je suis passé par des moments, certains l'ont entendu, et je remercie pour vos prières, parce que vraiment vous m'avez porté, mais je peux vous dire qu'il y a certains péchés avec lesquels je lutte plus aujourd'hui. Ayant passé très proche de la mort, je peux vous assurer qu'il y a des choses, ça vous intéresse plus. Mais Pierre le dit. Celui qui a lutté en a fini avec le péché. Oui, on peut finir avec le péché, avec certains péchés. On sera toujours pécheur et sauvé, mais la souffrance a cette possibilité de nous amener plus loin, de nous approcher tellement de Dieu, qu'il y a des péchés dans votre vie qui s'arrêtent. Parce que vous avez, que Dieu vous avait fait une grâce incroyable. Et surtout, vous ne voulez pas souffrir pour rien. Vous voulez atteindre le but de votre foi, qui est le salut. Paul va dire, je trouve ma joie ainsi alors dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Voilà que je parle en insensé, mais vous m'y avez forcé. Car c'est vous qui auriez dû me recommander. C'est bien que je ne sois rien. Mais je ne suis absolument pas inférieur à vos super apôtres. Parce que justement, il y avait des gens qui disaient, regarde, qu'est-ce que c'est que ce prédicateur? Il sait même pas bien parler en public. Il est tout le temps en prison. Il souffre. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je préfère Apollos. Moi, je préfère Pierre. Moi, je préfère Jésus. Et Paul, il va dire, vous n'avez rien compris à vos super apôtres qui règnent maintenant. Il dit, vous régnez ? Parfait. Moi, apôtre de Christ, je vais me vanter. Je vais me vanter moi aussi, je vais faire comme vous, je vais faire le malin, je vais me vanter. J'ai souffert plus que vous, j'ai été lapidé plus que vous, j'ai été fouetté plus que vous, j'ai connu la famine plus que vous, j'ai été jusqu'au bout, laissé pour mort. On m'a rejeté, prison et ainsi de suite, privation, nombreux jeûnes, le froid, la faim, tout. Voilà ce que c'est qu'un apôtre. Mais vous, vous régnez. Et je termine. Donc dans mon église, ils savent, hein, il y a trois termines. Je termine une fois, je termine deux fois. Puis il y a des gens dans l'église qui me disent, c'est ton troisième termine. Donc j'en ai dit qu'un. Et si notre Asaph va réfléchir au bout de son texte. Donc on est au verset 16. Et il va réfléchir en disant, mais finalement, pourquoi je vis tous? Pourquoi eux sont super bénis et moi qui t'aime, je suis là, prêt à t'abandonner parce que finalement je vois pas l'intérêt. Je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste jusqu'au jour où je suis entré dans le temple de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Comme les images d'un rêve s'évanouissent après le réveil, ô Éternel, quand tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Oui, quand j'avais le cœur amer et quand je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis, et tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer? Car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur peut défaillir. Dieu reste mon rocher, mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles. Tandis que moi, mon bonheur, pardon, à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge et je raconterai ses œuvres. »